le manque d'outils politiques et le manque d'union entre les gens. C'est exactement ce que je demande que l'on essaie de corriger en construisant consciemment des alliances. Il faut changer d'échelle. Il faut quitter cette échelle qui était restée longtemps individuelle. Combien de fois j'ai entendu, mais si tout le monde faisait ceci, ou si tout le monde achetait commerce équitable, etc. Oui, bon, mais d'abord tout le monde ne le fera pas. Et ensuite, le geste individuel que je ne décourage jamais n'est plus du tout suffisant. Et si on n'est pas un minimum organisé, qui a dit que la classe de Davos, enfin les riches, c'est décrit par les pinsons, hein, ils sont unis, ils ont des intérêts de classe, ils sont très unis. Nous croyons avoir des intérêts différents, mais ce n'est pas vrai. Nous avons des intérêts très, très semblables. Seulement, les autres sont assez capables de dire, mais non, vous n'avez pas les mêmes intérêts que celui à côté, et ce n'est pas la peine de vous unir avec eux. Et je crois qu'il faut changer des choses. Il faut maintenant faire un peu comme on fait en Angleterre, où il y a des villes en transition, il y a des régions en transition, parce que les États ne font pas ce qu'il faut en tant qu'État, alors on commence avec la ville ou la région où les citoyens veulent s'unir pour dire, bon, qu'est-ce que peut être ma ville dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on peut réduire notre consommation carbone? Je ne sais pas si Orléans fait de la prose comme M. Jourdan, mais une autre ligne de tramway, il y a beaucoup moins de voitures. Je ne connais pas cette ville, je ne veux pas dire que c'est un modèle du genre, mais peut-être que Orléans, sans le savoir, est en train aussi de réduire son CO2, mais probablement sans beaucoup de participation citoyenne. Mais il y a des villes, maintenant il y a plus de 300, c'est surtout pour le moment un phénomène anglo-saxon, où il y a des comités citoyens sur tous les aspects d'une ville pour voir comment peut-on devenir une ville en transition. C'est-à-dire, on peut parfaitement être dans le comité qui s'occupe de la nourriture dans les hôpitaux ou les écoles, et voir mais comment peut-on soutenir les agriculteurs localement avec des AMAP, avec des achats directs, avec des liens beaucoup plus solides, ville-campagne, tout ça, comment peut-on avoir des plans pour que les entrepreneurs nous aident à, on ne va pas tout démolir, c'est évident, alors comment peut-on refaire les éléments principaux d'une maison pour qu'elle consomme moitié moins d'électricité. Par exemple, j'étais au lycée aujourd'hui, j'avais beaucoup de jeunes qui sont souvent intéressés par les métiers techniques de l'écologie, du bâtiment, et le proviseur encourage cela beaucoup, et ils sont très conscients de leur avenir, ces jeunes. Ils aimeraient mieux être dans des activités où ils peuvent aider les gens et puis la planète, hein, en réduisant, en changeant la manière de consommer, et ils ont des idées. Il s'agit de mettre tout cela ensemble pour regarder de façon critique et ouverte chaque aspect de la gestion d'une ville. Alors, je vous accorde que c'est plus facile dans une ville de gauche que dans une ville UMP, probablement. Mais ça ne doit pas être non plus impossible de faire dans une ville dite de droite. Ça, c'est une piste pour changer d'échelle et pour apprendre à travailler ensemble. Et il y a vraiment maintenant des expériences concrètes sur le terrain qui montrent que ça peut être fait. Il y a beaucoup d'expériences concrètes aussi pour reprendre la gestion publique de l'eau. Et dans tous les pays, à Paris, on vient de reprendre la gestion de l'eau publique, ça a été une assez grande bataille, mais bon, mais c'est fait. Alors, monsieur, je suis d'accord avec vous que il faut s'interroger sur est-ce que la biosphère est une priorité de riches. Mais la réponse que nous donnons à cela dans un TAC où nous avons mis sur pied récemment une grande coalition sur la taxation des transactions, nous l'avons fait avec 4 syndicats, des organisations écologiques, des organisations de solidarité nord-sud, y compris le Secours catholique et le Comité catholique fin et développement. Enfin, il y a beaucoup d'ONG dans cette histoire. Et l'idée et le point d'accord entre toutes ces organisations, c'est que si on peut avoir une taxe sur les transactions, le produit de cette taxe devrait aller un tiers pour réparer les systèmes sociaux dans le Nord où les transactions ont très majoritairement lieu. Deuxièmement, un tiers pour réaliser les objectifs du millénaire, c'est-à-dire dans le Sud, réduire la faim, réduire la pauvreté, réduire la mort des femmes et des enfants en couche. Bon. Troisième tiers, pour le climat, distribuer librement la technologie qui permet de réduire la consommation des énergies fossiles. Là aussi, il faudrait modifier les règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui autorise qu'on perçoive des royalties pendant 20 ans sur une technologie brevetée. Et ça, si on fait ça, on est fichu. Et le Sud n'aura pas ces techniques. Mais qui sont les plus grands producteurs aujourd'hui de panneaux solaires? Les Chinois. Et eux ont compris. Et j'ai cité pour les lycéens aujourd'hui un grand capitaliste dans le Silicon Valley qui a fait fortune entre autres avec Internet et qui dit, vous souvenez d'Internet? Eh bien, l'économie verte, ça va être 1000 fois plus importante. Ça va changer complètement la face du monde. Si tu me passes ton exemplaire, je peux peut-être le trouver. Merci. Il faudrait peut-être un petit moment, excusez-moi. Je devrais mémoriser les pages. Donc, pardonnez-moi, c'était une
le premier qui trouve gagne
une mauvaise idée. Oui. Mauvaise idée. Pardonnez-moi, je ne sais plus le numéro de la page. Mais il dit que ça va être une énorme bonanza pour les capitalistes. C'est pour ça aussi que je préférerais que l'État s'en occupe et que les bénéfices aillent au peuple et pas dans la poche de gens comme ça qui parlent devant un auditoire d'autres capitalistes investisseurs à risque et dit le journaliste, il a fait saliver son auditoire en leur peignant alors toutes les merveilles qu'ils allaient connaître, mais pour l'instant ce n'est pas les États qui font ça, sauf en Chine, et la Chine laisse faire ses entrepreneurs, mais naturellement les soutient et pense stratégiquement et à très long terme. La monnaie, quelqu'un a dit, est-ce que la finance peut vraiment être séparée de l'économie réelle? Mais pendant un certain temps, oui. C'est comme ça qu'on arrive à aller de l'argent à l'argent à l'argent à l'argent. Marx disait dans son fameux schéma qu'il faut passer de l'investissement dans la vraie production où on produit, on vend, on tire du profit, on tire la plus-value des ouvriers, on accumule, on réinvestit, mais on retourne toujours à la production. On va de la production à l'argent, hein, comme ça. plus maintenant. C'est ça la crise des subprimes. C'est ça l'endettement des banques. Les banques, pour chaque dollar qu'elles avaient en caisse, empruntaient 30 ou 40 ou parfois plus. C'était, tout cela était échafaudé sur des dettes. Et tant que ça tient en l'air, c'est le château de cartes, mais tant que ça tient, il y a un même produit qui peut être vendu 1, 2, 4, 12 fois, avec un profit à chaque fois, ça finit toujours par se casser la figure, bien sûr. Mais longtemps, ça peut rester divorcé de l'économie réelle. C'est pour ça que le secteur financier est 3 ou 4 fois plus profitable que n'importe quelle industrie. C'est pour ça que nos meilleurs jeunes cerveaux ont tendance à essayer de suivre les cours de cette dame à Dauphine qui est très connue et qui envoie ses jeunes financiers dans le monde entier et les jeunes Frenchies qui sont des traders ici et là, qui ont appris chez madame, je ne sais plus son nom, mais ils ne veulent plus être ingénieurs, médecins, avocats, prof, non, être trader, c'est, je comprends très très vite. Alors, non, je n'ai pas lu Tim Jackson, mais j'ai noté. Alors, les saisies de terre, oui, ça c'est une sorte de néocolonialisme caractérisé. Les principaux pays qui font ça ont tous compris qu'ils ne seront pas autosuffisants en nourriture. C'est la Chine, la Corée du Sud, c'est l'Arabie Saoudite et un certain nombre de pays très riches du Golfe. Et ils sont tous en train de faire du leasing ou de l'achat de terres dans des pays fertiles et en particulier en Afrique. Et ça risque d'être de nouveau une catastrophe. Alors, il y a des exemples. J'ai essayé dans le bouquin d'être honnête à ce sujet. J'essaie toujours d'être honnête. Mais là, il y a des exemples où on dit que les Chinois, par exemple, sont en train de partager leur technologie en Zambie et parfois ce qu'ils produisent sur leur terre est mis sur le marché en Zambie. Tant mieux, mais bon, mais je ne sais pas quelle est la concurrence avec les agriculteurs locaux. Je ne sais pas si la Chine n'avait pas de pénurie cette année-là et donc n'avait pas besoin de tout ça et alors autant faire profiter aux autres, c'est toujours bon pour la réputation de la Chine, mais ce qui est certain, c'est qu'on a énormément réduit l'investissement en agriculture depuis 25 ans, ce n'est pas du tout à la mode, et maintenant qu'il y a crise alimentaire et que les prix en 2008 ont doublé ou triplé à cause de la spéculation aux États-Unis, du déplacement des terres pour faire des agrocarburants pour nourrir les bagnoles plutôt que les gens, que tout cela a contribué à cette hausse des prix dramatique et qui a plongé 100 millions de personnes additionnelles dans la faim chronique. Donc les pays qui ont les moyens se prémunissent contre ce genre de choses et c'est purement politique de pouvoir. Hein. Ça n'a strictement rien d'altruiste. Est-ce qu'on peut avoir un impact sur le G8 et sur le G20? Oui, mais seulement une fois de plus en étant nombreux et en étant unis. Parce que ces dirigeants, je crois, dirigent très majoritairement pour la case de Davos. Et tant que les gens se tiennent tranquilles, tout va bien. Et c'est clair qu'ils ont décidé, maintenant on va régler à la marge, mais on n'a pas du tout envie de changer les choses fondamentalement, on n'a surtout pas envie de socialiser les banques, on n'a pas envie de bouleverser, d'avoir les banquiers à nos coups comme ça, non, ça se fait pas entre gentlemen, et dans une bonne société, ça se fait pas, on joue le même jeu, je ne crois pas du tout à l'exhortation de ces phrases-là.